Tempo Classique sur RCN, Dominique Bréda.
Bonsoir à tous. Il n'y a rien et puis il y a quelque chose. Composer, c'est ça. J'estime qu'en art, en musique, il n'est au départ rien, rien à découvrir, mais tout à inventer, imaginer, concevoir. Cette définition de l'art de composer, c'est celle de mon invité de ce soir, François Narbonnier. Bonsoir François.
Bonsoir Dominique.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons parler de vous, de votre musique, au travers du dernier CD consacré à certaines de vos œuvres et qui vient de paraître. Je vous propose de faire connaissance avec cette pièce qui date de 2016.
Thank you.
C'était le dernier mouvement du trio Lydie par Nicolas Valette à la flûte, Agnès Bonjean au piano et Grégoire Catelin au violoncelle. Alors François, pouvons-nous évoquer votre parcours musical peut-être pour commencer ?
J'ai un parcours un petit peu atypique parce que quand j'étais jeune, je me destinais à être batteur de rock, de pop. Et puis j'ai évolué vers l'adolescence, vers le jazz avec toujours la batterie mais surtout le vibraphone qui a pris de plus en plus de place. Et en parallèle, j'ai découvert la composition avec la musique moderne et contemporaine, on va dire la musique du XXe siècle. Et j'ai commencé à écrire, voilà, d'abord dans un idiome qui relevait plutôt du jazz. Et je me suis orienté vers des matériaux, des techniques, des influences de la musique du XXe siècle, on va dire de Debussy à Boulez et Steve Reich.
Voilà. Alors si je vous ai invité, François, c'est parce que vous avez une activité régionale aussi, puisque vous avez été prof de composition au Conservatoire de Metz et que vous avez dirigé le Conservatoire de Thionville.
En effet, je suis depuis bientôt 25 ans en Moselle, après avoir passé la première partie de ma vie à Paris et en région parisienne.
Tout d'abord, peut-être parlez-nous de Paprol et Becquet.
Paprol et Becquet, c'est une pièce pour flûte et piano. Et alors, il faut savoir que ce disque est consacré à ma musique de chambre et était réalisé, interprété par l'ensemble Pixis, avec lequel je travaille depuis plus de 20 ans. Donc c'était l'aboutissement d'un long compagnonnage. Et la base de l'ensemble Pixis, c'est Nicolas Valette à la flûte et Agnès Bonjean au piano. Et en général, il s'agrège d'autres instrumentistes, même des voix, voire des chœurs ou de l'électronique pour d'autres projets, d'autres œuvres. Mais j'avais écrit plusieurs œuvres pour diverses formations à partir de ce duo, mais jamais pour le duo lui-même. Et à la faveur d'un événement très agréable qui nous a libéré beaucoup de temps, qui s'appelait le Covid, j'ai écrit dans ces années-là ce duo, enfin pour le chœur de l'ensemble Pixis. Donc un duo pour flûte et piano qui s'appelle Paprol et Becquet.
Alors ça veut dire quoi, Paprol et Becquet ?
Les Paprol et les Becquet, c'était des pages, des morceaux de papier que Marcel Proust rajoutait aux éditions de La Recherche du Temps Perdu. Il ne se contentait pas de corriger le papier qu'on lui renvoyait, mais il rajoutait des bandes entières, parce qu'il y avait des paragraphes entiers qui s'intercalaient des fois entre deux phrases. Et on appelait ça des paproles, et on appelle ça aussi des becquets, qui est un terme qui vient de la tapisserie.
Voilà, ben écoute, on écoute Paproles et Becquets. Thank you. C'était donc Paprole et Becquet de François Narboni dans l'interprétation de Nicolas Valette à la flûte et Agnès Bonjean au piano, les deux musiciens de l'ensemble Pixis. Alors François Narboni, comment le choix des œuvres de ce CD s'est-il fait ?
On a déjà pris les œuvres que j'avais écrites pour l'ensemble Pixis qui convenaient à un format de chambre parce que par exemple on avait fait une œuvre il y a une dizaine d'années où il y avait aussi un double chœur d'enfants, des solistes, c'était un petit peu compliqué. Là, je voulais maintenir la musique de chambre. Et j'ai pris aussi quelques œuvres que j'avais écrites pour d'autres formations, mais que Pixis joue régulièrement. Donc on a fait un mélange des deux, voilà, pour avoir quelque chose de varié et représentatif.
Alors, ce CD est intitulé « En résonance », ça veut dire quoi ?
Bah, la résonance, quelque chose de capital pour moi, et c'est la leçon de Debussy. Vous avez un son et cette harmonie, elle résonne, elle génère des fréquences acoustiques, elle génère de l'harmonie, elle génère de la poétique aussi. Et il y a une des œuvres qui est justement Syrinx en résonance pour trois flûtes, qui est une mise en résonance, pour ne pas dire un arrangement ou une orchestration du Syrinx de Claude Debussy, que Nicolas Valette joue.
Tout seul à trois pistes.
Voilà, tout seul à trois.
Très bien. Alors, on va peut-être parler un peu de votre écriture musicale. Comment elle a évolué ? Donc, elle est partie du vibraphone ?
Pas nécessairement. Elle est partie de choses que j'entendais dans le jazz. Mais dans le jazz, j'élaborais de plus en plus mon écriture. Donc, ça ne plaisait pas toujours à mes petits copains. Qui aime bien quand même avoir des larges plages d'improvisation. Moi, c'est de plus en plus écrit. J'étais assez influencé par des groupes comme Magma, ou par Frank Zappa, ou par des choses comme ça assez élaborées de l'époque, et qui m'ont amené tout de suite à la musique plutôt contemporaine, parce que ces gens-là ont été influencés par des Messiaen, des Ligeti, des Berlioz, et si on monte en arrière, par des Stravinsky ou des Bartok.
D'accord. On a un peu l'impression qu'il y a de la musique répétitive dans vos œuvres aussi, enfin de certaines en tout cas.
Il y a une dimension répétitive qui doit venir de la batterie, parce que j'aime bien quand il y a de la pulsation, quelque chose qui tient physiquement. Là, c'est vraiment quelque chose de physiologique. Et donc, il y a des aspects répétitifs dans la musique. J'aime bien prendre des éléments et les mener jusqu'au bout, les décaler par rapport à eux-mêmes. Et c'est vrai qu'on retrouve ça dans la musique répétitive, même si j'utilisais ça avant de connaître la musique répétitive. Et Steve Rash en particulier, que j'ai connu personnellement.
D'accord. Alors donc, la composition, chez vous, c'est un besoin vital, c'est votre carburant.
Oui. Oui, c'est vraiment une gymnastique, une éthique quotidienne à laquelle je m'adonne quotidiennement.
Mais qu'est-ce qu'il vous faut comme moteur pour démarrer une œuvre, à part rien, puisque...
Je dois dire que sur le plan pratique, il me faut quand même des projets.
Ouais.
Voilà. Je dis toujours que je composerais même si j'étais sur une île déserte. pour les animaux et les bestioles environnantes, mais c'est vrai que quand il y a un projet moteur, ce qu'on appelle une commande, pour être plus trivial, avec des dates ou faire des partitions, moi ça me motive, voilà, c'est un stress nécessaire. Maintenant, il n'y a pas toujours des projets, en plus en ce moment les temps sont durs pour les, financer la culture. Donc on trouve des projets, on trouve des choses à faire qu'on n'a pas eu le temps de faire par le passé. Bah, c'était un peu le cas de la pièce précédente que j'ai fait pendant le Covid.
D'accord. Là, c'est de la musique de chambre, mais vous avez aussi écrit pour grand orchestre ?
J'ai écrit pour toutes les formations. J'ai écrit pour plusieurs œuvres symphoniques. J'ai écrit pour le théâtre, pour le cinéma, pour la vidéo. J'ai écrit un opéra, plusieurs spectacles, des choses qui font parfois plusieurs heures de musique. Voilà. Pour moi, c'est important de pouvoir donner dans tous les genres des petites pièces solistes de quelques minutes, voire quelques secondes, jusqu'à des... Par exemple, une musique de scène que j'ai faite il y a une vingtaine d'années qui durait 12 heures pour la Divine Comédie de Dante.
Voilà. J'ai vu passer ça.
On ne la passera peut-être pas aujourd'hui.
On va prendre toute l'année peut-être.
Oui, c'est ça.
Vous avez même écrit pour l'orgue.
J'ai écrit pour l'orgue. Mon opus 2 s'appelle Paradis.
Non, ben, tout
c'est donc comme son nom l'indique, presque pour orgue.
D'accord. Alors, quel effet ça fait quand on entend sa musique jouée par un grand orchestre la première
fois ? C'était impressionnant. La première fois, c'était avec l'Orchestre des Prix au Conservatoire de Paris où j'ai fait mes études. C'était ma pièce de prix. Donc, on a l'orchestre des meilleurs élèves et avec l'excellent chef à l'époque, qui l'est toujours d'ailleurs, Pascal Roffet. Mmh. Et c'est vraiment quelque chose de très émouvant, très impressionnant. Voilà, ce que vous avez mis 6 mois, 1 an, voire plus pour certaines œuvres à écrire, à coucher parfois péniblement sur le papier, ben là, ça se révèle devant vous. Et voilà, et quand c'est servi par l'Orchestre Philharmonique de Radio France, comme la pièce qu'on va entendre, évidemment, c'est d'autant plus impressionnant.
Ben oui, c'est sûr. Eh ben, on va l'écouter. C'était le début de La Noia de mon invité, François Narboni. C'était l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Ernest Martinez Izquierdo.
Tempo classique sur RCN, Dominique Breda.
Alors, François, quand un orchestre joue une de vos œuvres, vous intervenez en amont, vous intervenez pendant les répétitions, vous travaillez avec le chef
Oui, ça me paraît nécessaire d'avoir cet échange avec le chef et l'orchestre. Ou avec l'orchestre via le chef qui sert d'intermédiaire, de médium. Parce que bon, on peut toujours tout noter le plus précisément dans sa musique. On peut être un compositeur mort, comme il y en a beaucoup.
Oui.
Mais bon, quand vous êtes là, vous êtes vivant, ça me paraît important cet échange. Et c'est ce que j'aime avec l'ensemble Pixies, parce que c'est un échange approfondi. Bon, ils sont moins nombreux que le Philharmonique de Radio France, mais c'est voilà, un échange quand on travaille sur des nouvelles œuvres, ou même des reprises, ou des enregistrements, ou des concerts. Vraiment, on peut travailler note par note. Il y a vraiment une réflexion technique, musicale, artistique, philosophique. Et pour moi, c'est comme ça que je conçois le métier de compositeur.
Alors, la noia, pourquoi ce titre et...
La noia, ça veut dire l'ennui en italien.
Et c'est pas le cas quand on écoute. Hein.
Je sais pas, c'était inspiré. En fait, c'est le titre d'un roman de Moravia, d'Alberto Moravia, qui est très, un roman très célèbre, où il y a comme ça une sorte de découverte de l'ennui dans l'activité. Je trouvais ça intéressant. Voilà.
En tout cas, dans ce comme notion. Il y a beaucoup de flûtes, non?
Tout le monde est mis à contribution. C'est ça, c'est juste le début, mais oui. Ça dure près de 20 minutes, je crois. Et tout le monde est mis à contribution, je vous rassure.
Bon. Vous avez beaucoup de commandes? Malgré le fait qu'en ce moment...
La période est un peu morte. Oui, j'ai ça. Beaucoup de projets qui doivent se concrétiser. J'ai peur qu'ils se concrétisent tous en même temps. Donc, au même moment qu'il faille que j'écrive 5 ou 6 morceaux simultanément. Donc, on verra. Voilà. Mais les choses ont du mal à décoller, mais c'est pas seulement pour moi.
Oui, j'imagine. Dans ce que vous avez écrit, qu'est-ce qui vous a demandé le plus de travail?
Ma première œuvre, mon opus 1, qui s'appelle Pandémonium pour clavecin.
Qu'on écoutera tout à l'heure.
Voilà, ça dure seulement 8 minutes. Mais c'était la première. Alors, j'avais écrit beaucoup de musique avant, mais celle-là, c'était la première que j'ai jugée, on vient de dire, digne de figurer à mon catalogue, donc mon opus 1, comme on dit. Mm-hmm. Et elle m'a demandé plus d'un an, un an de travail, mais vraiment acharné. Mais j'en étais content, c'était vraiment le départ de tout. Ça a commencé à ce moment-là, j'avais une vingtaine d'années.
Et une fois qu'une œuvre est écrite, vous n'y touchez plus?
Pas nécessairement, il y a des œuvres que j'ai retouchées.
Ouais,
il y en a qu'on n'a pas envie de retoucher, c'est fini, c'est terminé. Et d'autres qu'on reprend même plusieurs fois. Mm-hmm. Voilà. Alors, je n'ai pas le syndrome de Boulez qui retouchait tout le temps ses œuvres jusqu'à la fin. Hein. Mais il y a des œuvres comme ça qui ne trouvent pas leur fin, leur version définitive tout de suite. Et on y revient, on les retravaille. Parfois, ça peut être des œuvres qui paraissent simples au public et qui demandent... Ce n'est pas une difficulté, mais disons que... Il y a un aboutissement qui est satisfaisant un jour, mais quand il est repris par un interprète plusieurs années après, on a envie de changer des choses. J'ai quelques œuvres qui fonctionnent comme ça.
Oui, mais ce n'est pas vous qui changez de vision des choses. C'est l'interprète qui vous fait ouvrir une porte
ça
nouvelle.
Ça peut être tout. Ça peut être moi. Ça peut être l'interprète qui va me montrer quelque chose, un doigté. Il n'y a pas de règle.
Il n'y a pas de règle. Bon. Mais bon, au départ, on disait il n'y a rien, mais il y a une fulgurance après le rien. Ou alors c'est juste du travail?
Il n'y a rien, mais il y a tout. Il y a la vie, il y a son expérience, il y a toute l'histoire de la musique qui nous guette. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire le rien, en fait. Ça paraît important. Moi, j'ai travaillé dans des musiques très typées. Quand je faisais de la batterie pop-rock, il y a vraiment des stéréotypes dans le jazz, les formes du jazz, du standard de jazz. Il y a pas des règles, mais des principes. Mmh. Et ce qui m'intéresse dans la musique dite contemporaine, c'est que justement, on peut partir de rien. Voilà. Après, ça ressemble à tout ce qu'on voudra, mais moi, je fais vraiment le vide quand je commence une œuvre. Je ne prends jamais un matériau existant. Je repense tout à zéro, l'aspect, la mélodie, l'harmonie, le rythme, l'orchestration.
Ouais. Et ça vous arrive d'écrire uniquement pour votre plaisir?
J'écris toujours pour mon plaisir.
Oui, d'accord. Mais enfin, je veux dire, en dehors d'une commande, comme ça, parce que...
La question, c'est que... Oui. C'est assez difficile à répondre comme question, parce que... C'est toujours un plaisir de composer, donc c'est pas toujours des commandes avec tout ce que ça a d'institutionnel. Hein. On peut écrire pour des amis et on écrit pour le plaisir aussi.
D'accord. J'ai lu que vous peignez aussi.
Oui, je suis peintre.
Alors vous exposez?
J'expose, je participe à des expositions. Ouais. Voilà.
Sous votre nom, on peut.
Sous mon nom.
Il n'y a pas de pseudo, il n'y a rien.
Je n'ai pas vraiment une carrière là-dedans. Pour le coup, je dirais que c'est quelque chose que je fais pour le plaisir.
D'accord.
Parce que la musique, c'est mon métier. La musique, j'en vis. Donc, effectivement, il faut des opportunités, des commandes. Ouais. Tandis que la peinture, je fais ça pour le plaisir. Donc, je peux peindre pour moi un tableau que je serais. Enfin, moi, ma femme et les gens qui passent à la maison pourront voir. Mais je n'ai pas de. Je ne sais pas comment dire, d'opportunité publique nécessairement pour réaliser un tableau.
D'accord, c'est une autre façon de vous exprimer. Voilà,
oui, c'est très important. Ça a été un équilibre. En fait, la vérité, c'est que j'ai toujours dessiné. Quand j'étais enfant, j'étais très doué pour le dessin. Et la musique est même venue après. Et même à mon adolescence, j'hésitais entre me lancer dans le dessin, plutôt la bande dessinée et la musique.
Ouais.
C'était un choix cornélien. J'ai toujours gardé le dessin et il y a une quinzaine d'années, je me suis mis à la peinture. J'ai fait ça comme, en général, tout ce que je fais vraiment très à fond pour obtenir un niveau, on va dire, un peu professionnel pas comparable à la musique, parce que la musique, j'ai des décennies de plus de bouteilles, on va dire. Mais bon, je voulais quand même me donner à fond dans la peinture.
Ça veut dire que vous avez fait des stages, des choses comme ça ?
Non, j'ai étudié aux Beaux-Arts de Metz, en fait.
Ah d'accord,
oui, ok. Oui, oui, il y a des cours pour adultes. J'étais déjà adulte à ce moment-là. Et j'ai étudié.
Eh bien, vous écoutez un petit peu de musique en cellule. Thank you. C'était En cellule, un extrait du dernier CD de mon invité François Narboni, dans l'interprétation de Colline Provost au hautbois et toujours Agnès Bonjean à la flûte, au piano, pardon. Alors François, j'ai lu que vous faisiez de la musique de film. Quel est votre rapport à l'image ?
Je ne fais pas vraiment de la musique de film, je fais de la musique de film vidéo.
Ah, d'accord.
C'est différent. J'ai fait quelques musiques de film, ouais. C'est pas tout à fait mon métier. Et je n'ai pas éprouvé vraiment de satisfaction là-dedans. Par contre, je travaille avec la vidéo et depuis quelques années, je travaille avec Bob Cohn, vidéaste. Mmh. Et on a fait de nombreuses vidéos.
D'accord, très bien. Alors, j'ai remarqué que vous donniez parfois des titres assez curieux à vos œuvres. Vous pensez que ça peut aider l'auditeur à mieux rentrer dans la pièce ?
Je ne sais pas, mais autrefois on appelait les œuvres sonate en telle tonalité, numéro tel, ouais. Symphonie,
les opus, les BWV,
trio,
tout ça.
Machin truc, BWV, Köchel, que sais-je. Et, ou alors un opéra qui avait un titre. Aujourd'hui c'est plus difficile. Moi j'emploie, comme je n'utilise pas de forme classique ou classée, donc je suis obligé d'inventer des titres. Et autant faire des titres un peu soit recherchés, soit cocasses. Moi je suis très littéraire, j'aime beaucoup lire. Ça me nourrit, comme la peinture, comme la musique bien sûr. Donc c'est souvent inspiré de la littérature.
Alors il y a un titre que j'ai même du mal à exprimer. Un enroulement kaléidoscopique d'ellipses mamelliformes. Racontez-nous.
Alors ça, c'est une description dans un roman de Faulkner qui s'appelle Le Domaine. C'est la trilogie des Snopes. Il y a le Domaine, le Hameau, la Ville. C'est les trois romans qu'il a écrits. J'aime beaucoup Faulkner. Et il y a la description d'un personnage féminin qui s'appelle Eula, qui passe devant tout un groupe de bouseux. C'est vraiment le sud des États-Unis d'après la guerre de sécession. Donc il faut imaginer, il y a cette créature un peu naïve qui a des formes tout à fait attirantes, si je puis dire. Et il l'a décrit à un moment, ça c'est juste un extrait d'une description de cette personne qui fait plusieurs pages. D'accord. Et donc il décrit son corps, ses courbes, ses volutes comme un enroulement kaléidoscopique d'ellipses mamelliformes. Voilà, chacun regroupe les mots, les idées comme il voudra.
D'accord, eh ben, on va peut-être écouter un petit extrait. Thank you. C'était donc un extrait de « Un enroulement kaléidoscopique d'ellipse mammelliforme » de François Narboni. C'était Nicolas Valette la flûte et Alain Cello à l'alto. Alors Alain Cello, c'est quelqu'un qui est dans la région aussi.
Oui, Alain Cello, c'est quelqu'un d'important dans la région. C'est un très vieil ami que j'ai rencontré en arrivant à Metz en fin 99, quand j'ai repris la classe de composition au conservatoire. Et c'est un altiste donc il joue à l'orchestre de Lorraine qui s'appelle aujourd'hui
l'Orchestre national de Metz.
Mais il a changé
Grand Est.
Grand Est. Voilà, et c'est aussi un excellent compositeur. Donc j'ai eu le plaisir et l'honneur de l'avoir comme élève. C'est comme ça que je l'ai connu, même s'il est un peu plus âgé que moi. Et on a lié amitié. Et j'étais content de. Alors il a joué plusieurs fois avec l'ensemble Pixis, mais j'étais content vraiment de l'associer à ce disque dans lequel il joue donc ce duo qu'on vient d'entendre. Duo, je précise, pour flûte alto et alto.
D'accord.
C'est important.
Oui.
On a dit juste flûte avant.
Ah oui, pardon.
Et il joue aussi deux pièces pour alto, les Doux et Pezzi. Ben voilà, typiquement l'exemple d'une œuvre qui a mis du temps à aboutir, que j'avais écrit pour Maurizio Barbetti, qui est un altiste italien très, très, très important. Mais ça ne me satisfaisait pas. Et il a fallu que j'attende qu'Alain reprenne cette pièce pour vraiment la faire aboutir définitivement et pour pouvoir l'éditer.
D'accord.
Bien longtemps après.
Alors, on disait tout à l'heure que vous aviez été prof de composition au Conservatoire de Metz. Comment on enseigne la composition ?
Ben, c'est la question que je me pose encore.
D'accord.
Voilà.
Bon. Mais vous avez quand même des élèves qui ont persévéré.
Chaque élève, c'est vraiment une personnalité différente. Mmh. Il n'y a pas de règle de base. Alors, bon, on attend déjà des musiciens formés qui ont une pratique instrumentale.
Ouais, c'est ça.
Qu'on de l'oreille, mais même ça, c'est assez relatif, parce que vous aurez des gens qui ne sont pas d'excellents instrumentistes, qui ont fait des études limitées, mais qui ont quand même des très bonnes idées. Mmh. Donc c'est un petit peu difficile. Moi, je suis à l'écoute des élèves, j'essaie de voir ce qu'ils veulent, et moi, mon rôle, c'est de leur apporter le maximum d'éléments pour les aider à se développer, à trouver leur matériau de base, leur technique, puis éventuellement leur style. Et c'était quelques années vraiment très agréables, très enrichissantes. J'ai eu Alain Cello, dont on vient de parler. J'ai eu Olivier Schmitt,
qui est
organiste aussi.
Qui est venu il y a quelques semaines ici.
Voilà, j'ai eu celui qu'on appelle Chapelier Fou, qui est maintenant une vedette dans la musique électro. Et plein d'autres personnalités de ce genre.
Alors, on était dans les titres un petit peu bizarres. Alors, il y a les 5 barberinades. C'est quoi les barberinades?
Ben, les 5 barberinades, c'est 5 petites pièces pour violoncelle que j'ai écrites en hommage à ma fille Barberine, qui a une vingtaine d'années, qui est violoncelliste. Et donc, j'ai appelé ça des barberinades.
Bien. On va en écouter une, alors, mais une qui fait allusion à un rappeur.
Oui, elle s'appelle Jules, la pièce, et elle fait à allusion au rappeur Jules, oui. Du même nom. Alors, je ne les ai pas écrits pareil. Et que ma fille...
Elle aime bien ?
Ah, elle aime bien, elle est même très fan, mais je n'y suis pour rien.
À vous ? Oui, bon, je ne vais pas vous poser la question si vous l'aimez aussi. Pas votre fille, mais le rappeur.
Voilà.
D'accord. Eh bien, on va écouter cette barberinade. C'était la troisième des cinq barberinades de François Narboni dans l'interprétation de Grégoire Catelin.
Tempo classique sur RCN, Dominique Bréda.
Alors, ces barberinades, François, datent de 2022. Et 33 ans plus tôt, vous écriviez un pandémonium pour clavecin. Alors, racontez-nous que c'est un pandémonium.
Pandémonium, c'est le bruit qu'on entend en enfer.
D'accord.
Voilà. Et donc un pandémonium, c'est devenu par extension un bruit chaotique.
Qu'on retrouve
bizarre,
bien dans la pièce.
Qu'on retrouve bien dans la pièce. Voilà. Ouais. Et c'était donc mon opus 1, j'avais une vingtaine d'années, c'était le point de départ de tout.
Voilà. Bah écoutez, je propose qu'on écoute le point de départ. C'était le début de Pandémonium sous les doigts de Claire Bodin au clavecin. Alors François Narboni, vous me disiez hors antenne que la musique qui avait été écrite il y a 35 ans à peu près va être réutilisée prochainement.
Elle est reprise sur un film vidéo de Bob Cohn, avec qui je travaille depuis plusieurs années, qui a fait un montage de tableaux de la Renaissance représentant l'enfer, donc Jérôme Bosch et puis plein d'autres, dont la vitesse suit la musique et le rythme et tous les décalages de la musique. Et ça alterne avec des témoignages de son père, qui était un rescapé de la Shoah, André Cohn, et sur lequel il avait fait un film dans les années 90.
Bien. Alors, on voit bien que votre monde sonore, c'est une grande diversité, une grande originalité. Hein. Par exemple, votre ami Régis Campo, un autre grand nom de la composition, dit de votre musique qu'elle le fascine, qu'elle l'intrigue et qu'elle l'inspire. Alors, ce CD que vous êtes venu nous présenter, on est la preuve vivante. Hein. C'est un bon moyen d'entrer dans votre univers. Et j'espère que, comme moi, les auditeurs auront pris plaisir à la découverte de votre musique et de votre personne également. Hein. Alors, si on veut, on va revenir aux sources maintenant avec un extrait de ce qui fut de vos tubes, qu'on appelle Les Animales.
Les Animales, c'est une œuvre de 1996 qui m'avait été commandée par l'ensemble Itinéraire. C'était dirigé par le regretté Mark Foster. Et c'est une pièce pour contrebasse solo. Et donc là, c'est Didier Meux, le soliste. Et ensemble instrumental et clavier électronique qui joue des échantillons de sons d'animaux que j'avais en fait échantillonnés et que j'avais retranscrit musicalement. Donc tout l'univers, on va dire, animalier, ses sonorités, ces rythmes, il y a aussi bien des vaches que des oiseaux, que des chiens, que tout ce qu'on voudra. Et surtout son énergie et son côté langage, l'idée que ça dialogue, que ces animaux s'expriment, parlent comme nous. Tout cela est transféré vraiment aux instrumentistes. Et ça donne cette pièce, Les Animales.
Qu'on écoute pas en entier parce qu'elle dure un quart d'heure, mais voilà. Thank you. c'était le début des Animales de François Narboni dans l'interprétation de l'ensemble Stravinsky dirigé par Jean-Pierre Pinet qui était venu nous rendre visite il y a quelques mois. Et la création de cette pièce a été faite par l'ensemble Itinéraire dirigé par Marc Foster.
Oui, en 1996 au Centre Pompidou, Paris.
Très bien. Alors ce CD que vous êtes venu nous présenter, il a une pochette qui est très intéressante.
C'est une pochette d'Arnaud Huisneau, alias Arnos, qui est un fameux et très doué photographe et graphiste et créateur en général. Et le projet s'est fait aussi avec lui, donc entre un compositeur, un ensemble instrumental, et puis aussi un artiste visuel, on va dire. Et ce sont des photos, en fait, une série qui s'appelle « Promenons-nous dans les bois », des photos de forêts environnantes. Mmh. Et qu'il a retravaillé de manière très spéciale. Alors, je ne pourrais pas expliquer techniquement comment ça fonctionne, mais ça donne vraiment l'impression de gravure. Et moi, ça m'a tout de suite frappé. J'ai tout de suite, quand je les ai vus, j'ai tout de suite dit que c'est peut-être même ça qui m'a donné envie de faire le disque. Parce que d'accord. Je me suis dit depuis longtemps, allez, je dois faire un disque de la musique de chambre. Et puis, en voyant son photo, je me suis dit, tiens, ça fait vraiment une pochette formidable. Eh bien, on va lancer le disque et c'est parti de là, en fait. À l'envers. D'accord. D'habitude, ça vient à la fin, le visuel.
Eh bien, pour terminer cette émission, j'aimerais juste citer les derniers mots du texte que vous avez écrit pour ce CD. L'acte de composer entre vie et plénitude, absence et réalisation, néant et être, c'est le symbole de la vie même. Alors, belle et longue vie, François Narboni.
Merci beaucoup.
Voilà, on termine avec une annonce. Le dimanche 14 avril à 16h à l'église Saint-Livier de Saint-Max, concert de trombone et orgue avec Guillaume Kunzel et Alexandre Rabin au trombone et Cécile Bollinger à l'orgue. Merci à Joris pour la technique. Continuez à écouter RCN, on se retrouve mardi prochain.